Merci à tous ceux qui se joignent à nous pour cette deuxième heure d'émission. Je salue les gens de l'Outaouais, les gens de la région de Gatineau, les gens de l'Estrie, Sherbrooke, donc tous ceux qui nous écoutent sur le 104.7, le 107.7 et tous ceux qui nous écoutent sur la grande planète Internet, où que vous soyez, merci d'être là. On va maintenant parler d'enjeux qui touchent, entre autres, l'aide médicale à mourir, parce que mon invité est un des rares médecins au Québec quand même qui accepte de poser ce geste. Vous savez qu'au Québec, il n'y a pas beaucoup de médecins qui accepte de poser les gestes nécessaires en matière d'aide médicale à mourir. C'est d'ailleurs un problème parce que c'est un service de santé, appelons-le comme ça. C'est un soin, en tous les cas, c'est considéré comme un soin de santé qui n'est pas donné de façon égale partout au Québec. On sait au fil des deux dernières années, par exemple, deux, trois dernières années, qu'à Montréal ou à Québec, c'est différent. Ça change un peu, les mentalités au sein du corps médical changent un peu, mais si vous êtes à Montréal ou dans la grande région de Montréal, c'est plus difficile de trouver un ou deux médecins qui sont prêt à signer votre papier pour que ça ait lieu. Évidemment, en même temps, il n'y a pas foule non plus de gens qui veulent avoir accès à l'aide médicale à mourir. Mais aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus de gens qui veulent savoir comment ça marche, comment ça se passe en fait. Et dernièrement, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, ce médecin que vous connaissez si vous êtes un assidu fan de l'émission 24/7, cette série à Télé-Québec qui en est à sa quatrième saison à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont où travaille le docteur François Marquis. Merci d'être là, docteur Marquis.
Un gros merci pour l'invitation.
Merci de prendre le temps. Vous êtes très occupé, je sais, parce que vous êtes chef de service des soins intensifs à Maisonneuve-Rosemont. Vous êtes intensiviste, interniste au CIUSSS de l'Est de l'île de Montréal. C'est un poste important que vous avez. Autre poste important que vous avez, c'est que vous êtes un de ces rares médecins qui accepte de poser ce geste, de mettre fin à la vie d'un patient qui le demande. Avant d'arriver à comment ça se passe et tout ça, parlons un peu de cette façon, en fait, du fait qu'on est rendu là au Québec. Et c'est sûr que c'est un cheminement qu'on a fait parce que c'est pas toutes les sociétés aussi, j'allais dire avancées. Est-ce que vous considérez que c'est un avancement d'en être là, d'avoir cette loi désormais qui nous permet d'avoir accès à l'aide médicale à mourir?
Effectivement, moi, je le vois comme un avancement. C'est aussi un rôle de précurseur. Je pense qu'on a pris, le temps de le faire dans le bon ordre, c'est-à-dire qu'on s'est posé les bonnes questions. Certainement, il y avait une pression sociale. C'était quelque chose qui était souhaité par les gens. Et on a pris le temps d'écouter les gens, on a pris le temps de faire une réflexion et on a surtout pris le temps de créer un mécanisme sécuritaire pour envelopper tout ça et permettre que ça se fasse. Et je dirais que c'est une belle réussite parce que ça fonctionne en fait mieux que ce que je pensais que ça fonctionnerait jamais.
Il faut quand même dire aux gens qui nous écoutent qu'il y a peu de gens qui demandent l'aide médicale à mourir. Ça reste quelque chose d'extrêmement marginal au Québec et au Canada.
Oui, et c'est ce qu'on s'attend. Ouais. Ça serait extrêmement inquiétant si tout d'un coup, les gens disaient « Non, arrêtez de me traiter, je veux juste aller à l'aide médicale à mourir. » Ça serait pour moi un point d'exclamation, un point d'interrogation, un gros drapeau rouge. Mais pourquoi ça serait si populaire? C'est certain qu'au début, on a présentement quand même un peu plus de popularité que ce qu'on avait anticipé initialement là, dans les prévisions du gouvernement. Mais il y a là-dedans...
Ah, ouais?
Oui, mais il y a aussi un phénomène un peu de vague. Tous ceux qui étaient en attente, parce qu'il n'y en avait pas avant. Et là, donc, il y a eu un bolus, il y a eu une espèce de... Pas un engouement, mais il y avait comme une liste d'attente. Et là, je crois que ça va prendre plus une vitesse de croisière. L'autre chose, c'est qu'au début... Pour beaucoup de personnes, même si ça avait été discuté, il y avait un élément un peu choquant à ça. C'était très nouveau. On ne savait pas trop de quel côté, nous, les médecins, de quelle façon ça se manifesterait. Mais pour les patients aussi, c'était « Attends une minute, là, c'est quoi qu'ils font? Comment ça va? » On a dû, comme société, apprivoiser le mécanisme.
Et encore, hein?
Et encore, c'est pas encore fini. Mais j'entends beaucoup moins d'opinions à l'emporte-pièce où les gens n'avaient aucune idée de comment ça se passait. Ça, c'était les premières années où les gens... inventait des scénarios. C'était assez extraordinaire l'imagination que les gens pouvaient avoir et que les médecins pouvaient avoir aussi. Et là, il y a eu beaucoup, beaucoup d'efforts de juste rétablir les faits, juste informer les gens. Les gens sont intelligents. Quand on leur donne les faits et qu'on leur explique comment ça fonctionne, le premier réflexe, c'est habituellement « Ah, OK, OK, c'est tranquille, on fait ça comme il faut, c'est respectueux, c'est pas des exécutions. » Les gens, ils ont toutes sortes d'images dans la tête et quand on leur explique et... L'autre élément, c'est qu'avec le recul, ces gens-là commencent à avoir des amis, des connaissances. Dans la famille, il y a de plus en plus de familles qui ont quelqu'un dans la famille qui a été touché par ça. Mmh. ça va vite, hein, parce que quand on fait une aide médicale à mourir qui est entourée de 10 ou 12 personnes proches aimantes, ces 10 ou ces 12 personnes-là deviennent des témoins privilégiés. Et quand ces gens-là entendent des opinions un peu vite, ces gens-là vont dire « Oh, minute, moi j'étais là. » Et je peux te dire que c'est pas comme ça que ça se passe. Et ces gens-là, je crois, quelque part, deviennent aussi nos ambassadeurs. Et il y a des gens du système de santé. Moi, une des choses que j'avais pas réalisées, puis ça, c'est le grand docteur qui vit dans son hôpital puis qui est jamais dans sa communauté. Les soins à domicile, il y a beaucoup de gens qui vont demander à ce que leur infirmier ou leur infirmière de soins à domicile, de CLSC, soit là. Et ça, c'est assez extraordinaire parce que ça permet à ces gens-là qui font des soins au quotidien chez les gens, un, de voir à quel point ils sont appréciés. C'est une drôle de façon de le montrer, mais...
Sois là, maman.
C'est ça, sois là parce que...
Mais ça montre à quel point cette première ligne est majeure.
Exactement. Ouais. Moi, ça m'a ouvert les yeux. Mm. Et aussi de voir ces gens-là qui connaissent le système de santé, après, peuvent parler aux autres puis de dire... Regarde, peut-être en parlant avec des médecins de famille avec lesquels ils travaillent, te dire, regarde, ça se passe bien, c'est bien fait.
Je disais tout à l'heure qu'il y a des médecins qui sont encore très, très, très réticents. On sait, par exemple, qu'à Québec, il y avait une ouverture plus grande. Dès les premières semaines où ça a été annoncé, la légalité de la chose, la possibilité de demander l'aide médicale à mourir, alors qu'à Montréal, il y avait beaucoup de médecins. Là. Il y a tout un mouvement, d'ailleurs, qui est très montréalais, qui dit non, c'est pas vrai que moi, comme médecin, je vais tuer quelqu'un, je vais tuer un patient, ou je vais arrêter de lui donner des soins, ou je vais lui injecter une dose mortelle. Vous, est-ce que dès le début, vous avez été plutôt en faveur de... Je disais tout à l'heure, c'était un soin, c'en est un.
Et je pense
il y en a que ça fait réagir, d'ailleurs, de le dire comme ça.
Oui, mais en fait, je crois que c'est un soin. Moi, fondamentalement, je le crois, parce qu'on n'est pas mort tant qu'on n'est pas mort. Hein? C'est qu'il y a un élément de... Tant que tu produis, tant que tu es en train de faire ton soin médical, il faut que ça soit extrêmement bien fait. Et c'est une des raisons pourquoi c'est si minutieux. C'est qu'on n'est pas décédé tant qu'on n'est pas décédé. Moi, j'ai toujours eu, philosophiquement, je trouvais que c'est une bonne idée. Okay. C'est certain que quand tu arrives à le faire, c'est une autre paire de manches, il faut dealer avec ça. La chose, moi, de la façon que je l'ai justifié à moi-même, c'est juste ma recette, c'est que moi, personnellement, j'ai toujours dit que je n'abandonnerais pas un patient et que quand je fais un contrat thérapeutique avec mon patient, le traitement est toujours là. Est-ce que le traitement va arriver à une guérison? Pas toujours. Mais l'accompagnement est toujours un succès. Je pense souvent, des fois, les médecins... Bon, il y a les questions religieuses. Si dans ta religion ou dans ta façon de concevoir le monde, ce n'est pas possible, bon, mais c'est correct. On ne te demande pas de changer ta croyance ou de choisir la façon que tu vois le monde. Mais à partir de là, la question, c'est accompagne ton patient et c'est ça, on peut avoir un échec de guérison, on n'a jamais un échec d'accompagnement, on n'a jamais un échec de traitement. Et pour moi, c'est un peu ça, c'est facile quand tu es un jeune médecin de dire « j'abandonnerai pas mes patients » et quand un patient te regarde dans les yeux et te dit « donc tu es prêt à aller là avec moi ». Bon, mais comme je l'ai déjà dit, c'est comme s'il cale ton bluff, là. C'est comme « ah ouais, tu vas me suivre, hein? Ah, vas-y ». Et c'est pas facile, et c'est jamais facile. Et je l'ai souvent dit, le jour où ça deviendrait facile... Je pense qu'il y a quelque chose qui est brisé en dedans de moi, puis il faut que j'arrête à ce moment-là.
Combien vous en avez fait de gestes d'aide médicale à mourir pour le moment?
Sérieusement, j'ai arrêté de compter. Je ne suis pas celui qui en a fait le plus, mais justement, je ne veux pas les compter. Je ne veux pas que ça soit un tableau. Je ne veux pas que ça soit... Chaque moment est absolument unique. C'est un numéro un pour chaque personne. Chaque personne va avoir ses particularités. Chaque personne a son histoire.
Mais c'est 10, 20, juste nous donner un ordre d'idée.
Un ordre d'idée... Plus que 10, facile. Il y a un moment où j'ai pris un petit frein, là, j'ai pris une pause. Ça, il faut le sentir, mais il faut savoir s'écouter aussi. Hein. On voit ça un peu, là, on peut avoir une espèce d'épuisement moral à faire ça. Il y a des expériences qui peuvent être positives ou négatives, mais même les positives, des fois, peuvent venir nous chercher. Moi, à un moment donné, j'ai pris une pause, sachant que si je prenais pas cette pause-là, peut-être que là, je dépasserais un point où là, je ne voudrais plus jamais en faire. Après quelques mois, j'ai dit « OK, c'est correct, je vais réintégrer les rangs ». Effectivement, nos rangs, on l'a mentionné, ils sont pas très... Je suis loin d'être tout seul en enfer. On est quand même plusieurs médecins en enfer par rapport...
Combien, à peu près?
Mais en fait, je le sais pas parce que c'est très tabou. Je peux dire, dans mon hôpital, on est combien parce qu'on se connaît et on s'est créé quelque chose d'assez... spécial. Je ne sais pas si d'autres hôpitaux ont fait ça, mais nous, on a une espèce de petit programme de mentorat. Ceux qui ont fait les premières aides médicales à mourir, on a dû tout déblayer. Là. Il a fallu apprendre la paperasse, il a fallu apprendre à apprivoiser les procédures. Et souvent, ce qu'on a eu, c'est des gens qui sont venus dire « Ah, moi, je suis pas à l'aise à le faire parce que je sais pas, je veux pas me tromper, je veux pas ne pas le faire comme il faut. » Et donc, on a commencé, ils nous accompagnent. Ils deviennent le deuxième médecin, mais ils viennent au moment du soin. Et après, ils sont désensibilisés un peu, on a répondu aux questions, on a rempli la paperasse avec eux autres. Et là, après ça, ils prennent le lead d'un prochain cas, on les accompagne et on s'est fait une communauté comme ça et qui fonctionne étonnamment bien. Je dois dire que dans le CIUS de l'Est de l'île de Montréal, on manque de gens, okay, parce que ça peut revenir assez souvent, mais on n'est pas les plus mal pris. On s'est pris en main, on s'est créé cette petite communauté-là.
Manquez de médecins, là, c'est ce que vous dites,
oui,
pour le faire.
Et ce qui est un peu paradoxal, c'est que moi, dans ma tête, cet acte-là devrait être un moment privilégié entre le médecin traitant, souvent un médecin de famille, et le patient. Et souvent, ce qui nous arrive, c'est que moi, je dois faire des aides médicales à mourir de patients qui ne sont pas mes patients. C'est un peu particulier. Et j'ai eu des médecins de famille qui m'ont appelé, qui m'ont dit « Écoute, je ne suis pas capable de faire ça. » Je me rappelle un médecin de famille qui a dit « Je suis à quelques mois de ma retraite. Je suis un vieux modèle de docteur. C'est inconcevable pour moi. J'accompagne cette patiente-là depuis des années. Elle m'a annoncé que le jour où elle serait prête, elle allait demander l'aide médicale à mourir. Et je lui ai dit que je lui trouverais quelqu'un parce que je ne serais pas capable de le faire. » Par contre, j'ai fait sa deuxième évaluation. J'ai rempli tout ce que je pouvais remplir. Pouvez-vous, docteur Marquis, vous occuper de ma patiente? Ça, c'est parfait. J'ai aucun problème avec
et
ça.
Et il ne pouvait pas, sans doute parce que le lien était trop émotif, finalement.
Probablement. Mais je n'ai même pas besoin d'explorer ça. Dans le sens où lui a fait son travail personnel. Puis il a réfléchi. C'est pas juste. Il ne s'est pas.
Dédouané, déconnecté, c'est ça, ou c'est pas laver les mains du cas. Là.
Exactement.
Il a vraiment fait le suivi dont vous parliez.
Exactement.
Il a accompagné. L'accompagnement. Voilà.
L'accompagnement était réussi dans ce cas-là. Et il est arrivé à la conclusion que lui ne pouvait pas faire ce soin-là. Et ça va. Malheureusement, j'entends des fois chez certains patients qui me disent « J'ai vraiment eu l'impression que mon médecin traitant ne voulait plus rien savoir de moi. Je suis mal pris. » Et ces gens-là viennent un peu en détresse, vraiment cogner à une porte. Et là, il arrive dans le système d'un hôpital. Et là, il faut cogner à une porte pour dire « Je veux l'aide médicale à mourir. » Et des fois, les gens nous en parlent. Ils sont très sereins avec ça. Et des fois, on sent cette espèce de petite honte de « Pourquoi j'ai besoin de venir un peu quémander une aide médicale à mourir? » Et ça, ça devrait pas arriver. J'ai eu des histoires, des fois, des patients que dès qu'ils ont ouvert la discussion avec leur médecin traitant, le médecin s'est fermé comme une huître, puis il a dit que si c'est comme ça, trouve-toi un autre médecin. Je dis, moi, ça arrive qu'il y a des patients qui ont des vues sur leur thérapie avec lesquelles je ne suis pas d'accord. On va s'expliquer, on va se parler, mais on ne ferme pas la porte d'emblée. C'est sûr. Je ne veux pas entendre parler de ça.
Docteur François Marquis est mon invité. Il est chef de service des soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal. Il est intensiviste, interniste au CIUS de l'Est de l'île de Montréal. C'est un de ces médecins qui accepte de poser les gestes nécessaires en matière d'aide médicale à mourir. Si vous avez quelque chose à dire au docteur Marquis, une question à poser, il est là pour ça. Vous pouvez faire le 514-790-9850 et de l'extérieur de la grande région de Montréal, sans frais, le 1-866-790-9850. Après la pause, on va revenir sur plusieurs choses que vous avez dites, docteur Marquis. Entre autres, j'aimerais que nous rappeliez votre premier cas, puis nous dire comment ça marche, justement, parce qu'il y a quand même encore beaucoup de gens qui se font toutes sortes d'idées. On va clarifier ça tout de suite après.
Parfait.
On parle des enjeux reliés à l'aide médicale à mourir et on est en compagnie du docteur François Marquis, qui est un des médecins qui a consenti au fil des ans à poser ce geste. Il est chef de service des soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Vous l'avez sans doute vu dans la série de garde 24-7. Martin est avec nous. Il nous appelle. Bonjour, Martin.
Oui, bonjour, Isabelle. Merci d'aborder le sujet. Écoutez, ça me touche réellement à cœur. J'ai un père, en fait, qui avait 64 ans et qui a été accidenté au travail depuis l'âge de 24 ans, donc souffre de douleurs chroniques. A perdu, en fait, sa conjointe il y a 3 ans de ça et a fait 3 demandes d'aide médicale à mourir au courant des 3 dernières années. Et la demande a toujours été rejetée basée sur le seul critère qui ne s'appliquait pas dans son cas, soit celui du critère de fin de vie. Alors, je salue l'audace du couple Gladu là, qui a fait en sorte de pouvoir abolir là, cette réglementation. Cependant, mon père, qui est désormais en CHSLD, on ne prend pas au sérieux sa demande et on a fait la demande, en fait, de revoir sa situation et le médecin, puisqu'il est là une fois par semaine, le rencontrer en lui disant « Écoutez, prenez pas ça comme ça, ça va bien aller. » Mais en fait, concrètement, mon père a déjà fait la demande qui lui a été refusée au courant des 3 dernières années.
Et lui, alors, il estime, votre père, Martin, votre père estime que les souffrances sont insupportables?
Ah oui, définitivement. Mon père est sur des patchs de fentanyl, sur le Dilaudide depuis des années. Là. C'est juste une condition de vie qui, désormais, l'accoutumance s'est créée et puis il n'y a plus d'effet réel. Là. Et même si on opte pour une chirurgie, eh bien les douleurs fantômes feront en sorte que sa qualité de vie, là, ça fait des années là, qu'elle est inexistante. Donc, avec la perte de sa conjointe, ouais, ça devient en fait qu'une délivrance. Là.
Fait que vous voulez savoir, j'imagine, vous devez vouloir savoir comment avoir l'aide médicale à mourir pour votre père, hein, de la part du docteur Marquis, peut-être, François?
Bon, première des choses, hein, l'aide médicale à mourir, ça peut pas être demandé par quelqu'un d'autre. Il faut vraiment que ça vienne de lui. Ce que je comprends, c'est que là, il y a eu un changement législatif et l'aide médicale à mourir doit être faite vraiment de façon... C'est un geste égoïste. C'est une demande absolument égoïste. Donc, c'est vraiment à lui de la verbaliser. Maintenant, d'un simple point de vue administratif, un médecin ne peut pas décider d'ignorer une demande d'aide médicale à mourir. Alors, il y a la demande ne doit pas être faite verbalement. Il y a il y a vraiment un papier qui est la demande d'aide médicale à mourir qui demande 2 témoins. Et une fois que ce papier-là est rempli, c'est un papier qui ne peut plus être ignoré. Il doit faire son chemin administratif, le DSP de l'hôpital. Naturellement, un CHSLD est sous la gouverne dans un CIUS et le papier devra faire son chemin, que le médecin traitant soit d'accord ou pas avec la raison. Moi, j'ai un patient qui pourrait être, par exemple, en parfaite santé, qui n'a aucun problème et qui décide de remplir ce papier-là. Je ne pourrais pas l'ignorer. On va faire son évaluation, il ne sera peut-être pas retenu. Mais ce papier-là, une fois rempli, c'est automatique, c'est pas la décision. Le médecin...
C'est pas aléatoire, là.
C'est pas aléatoire et le médecin traitant n'a pas ce pouvoir-là d'ignorer la demande. Elle doit faire son cours.
Voilà, Martin. Merci beaucoup de votre témoignage. Alexis, votre père a eu droit à l'aide médicale à mourir?
Oui, c'est exact. En 2017. Puis avant de commencer, je voudrais dire que j'ai beaucoup de respect pour les gens qui ont des divergences d'opinion sur le sur l'acte. Mon père souffrait depuis 1994, a été atteint d'une neuropathie motrice multifocale qui est une forme de sclérose en plaques, une maladie dégénérative, je suis désolé. Et donc, c'est ça, ça s'est transformé un petit peu en cancer qui n'était pas curable. A été opéré aux intestins 3-4 fois, était sur les diazides à la fin. Était très gêné de nous demander ça, d'avoir notre accord. Et on a eu l'accord familial de tout le monde et on a été présents quand ça a été fait.
Il a demandé votre accord à votre père?
Mon père était quelqu'un de très, très digne. Et pour lui, c'était avait peut-être peur qu'on soit pas d'accord avec lui. Ça a été fait dans le plus grand respect qu'il n'y a pas. Et ça a été une expérience, c'est certain. Puis c'est inoubliable, mais c'est pas... Je pense qu'il y a beaucoup probablement de stéréotypes négatifs par rapport à l'acte en tant que tel. Et c'est tellement, je veux dire, on est accompagné par le personnel médical. Lui, ça a été fait dans la région de Charlevoix, à l'hôpital de Baie-Saint-Paul. Et je veux dire, c'est à faire lorsque il n'y a plus de qualité de vie, il n'y a plus d'autonomie.
Voilà.
Un point que j'aimerais souligner, parce que c'est effectivement ce qu'on voit souvent, c'est un beau moment familial, mais techniquement le patient qui veut l'aide médicale à mourir dont la famille s'oppose,
ouais.
Honnêtement, on s'en fout un peu de la famille.
Voilà,
dans le sens
okay.
où c'est vraiment le patient qui demande. Et j'ai eu des cas où des patients ont simplement demandé, ont passé à travers tout le processus et ont dit « n'appelez pas la famille, je ne veux pas que ma famille soit là ». J'ai déjà eu des patients qui ont rencontré leur famille et qu'après, il a simplement dit à la famille « bye-bye, congé, ciao ». Je vais faire ça dans l'intimité. Je ne veux pas que vous soyez là.
Il voulait mourir seul.
Chaque personne le vit de façon différente. C'est certain qu'habituellement, pour la famille, quand il y a un accord et que tout le monde est d'accord, c'est beaucoup plus souhaitable. Et moi, je préfère ça comme ça. Mais si le patient souhaite le faire absolument seul, et j'en ai eu plus qu'un, c'est comme ça. Le patient, c'est lui qui est le capitaine du bateau. Là.
Ouais. Vous dites, j'en ai eu plus. Est-ce que quand même, les gens veulent surtout être d'abord avec leur famille quand même? Ou...
En grosse majorité. Ouais, hein? Les ouais. gens veulent les gens qui sont proches et significatifs et sont habituellement extrêmement raisonnables.
On a Adrienne qui a une question rapidement. Bonjour, Adrienne.
Oui, bonjour. Moi, je voudrais savoir la différence entre les soins de confort et l'aide médicale à mourir.
Mm-hmm.
Moi, j'ai ma soeur au mois de décembre qui, son médecin lui a dit qu'elle ne pourrait pas la guérir. Donc, il n'y avait pas de soins d'aide médicale à mourir à l'hôpital. Donc, elle a demandé à avoir les soins de confort.
Okay. Il y a effectivement une bonne distinction à faire entre les deux. Dans l'aide médicale à mourir, on va vraiment décider d'une heure, d'une date et on va donner un traitement médical qui va faire mourir la personne. Les soins de confort, c'est la nature va suivre son œuvre. Ça peut arriver à 13 heures un mardi, comme ça peut arriver un mercredi à 3 heures du matin. Et les seuls médicaments qu'on va administrer sont ceux qui vont calmer les symptômes. Donc, si par exemple, la personne en fin de vie développe de l'eau sur les poumons, une œdème respiratoire, elle s'étouffe, elle n'est pas confortable, on va lui donner de la morphine pour la rendre confortable. Mais il n'y a pas un médicament qui est donné dans le but que la personne décède.
Merci de votre question, Adrienne. Ça amène ma prochaine. Comment ça fonctionne? On vous a vu, Dr Marquis, et pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez regarder cet épisode, très touchant d'ailleurs, où on vous voit donner l'aide médicale à mourir à une patiente. Je pense que c'était votre première fois.
Oui, tout à fait. Ça a été la première.
Ça a été vraiment... C'était très émouvant. Moi, ça m'a beaucoup touchée parce qu'on voit que c'est quelque chose pour le médecin. On ne juge pas. Là, quand... Moi, je comprends qu'il y a des médecins qui ne peuvent pas être bien avec ça, mais qui réfèrent à d'autres, toutefois. Mm-hmm. Mais dans votre cas, racontez-nous un peu.
Moi, en fait, ce n'était pas ma patiente à l'origine. Je remplaçais un collègue qui n'était pas disponible. Donc, j'ai fait l'évaluation. La première étape, c'est l'évaluation. On rencontre le patient au moins à deux ou trois reprises. Comprendre que c'est vraiment un geste égoïste. Comprendre, égoïste dans le sens positif du terme, là, qu'on le fait pour soi.
Ouais.
Comprendre ses visions. Est-ce que on a répondu à toutes ces questions, toutes ces demandes? Est-ce que l'aide médicale mourir est vraiment, sachant toutes les options disponibles, celles que la personne ressent? Donc, on veut être certain. Première étape. Deuxième étape, on a un deuxième docteur qui vient s'assurer qu'on a fait notre travail comme il faut.
Donc, il y a deux médecins.
Il y a toujours deux médecins. Et il faut comprendre que ça ne va pas au mérite, l'aide médicale à mourir. C'est des conditions qu'on remplit. Les conditions ont un peu changé aujourd'hui. Une fois qu'on est d'accord que la personne a un désir inébranlable, il ne faut pas branler dans le manche, comme on dit là. Il ne faut pas dire « ouais, j'y pense ». Non, il faut être vraiment convaincu. Et à travers nos entrevues, on se rend compte que la personne est vraiment convaincue et qu'elle a une conviction de béton.
Quelqu'un a-t-il changé d'idée?
Moi, ça ne m'est pas arrivé. Okay. J'ai des collègues à qui c'est arrivé et c'est correct que ça arrive. Il n'y a personne qui va juger.
Et on peut
jusqu'à la dernière minute. Hein, je pourrais être absolument prêt à procéder à l'acte. La personne me dit finalement, non.
Je suis sûr.
On arrête cela. Mm. Et il n'y a pas de rancune, il n'y a pas rien, il n'y a pas, oh mon Dieu, tu as utilisé des ressources. On s'en fout, là.
Mm.
OK? Sérieux, c'est la personne. Et on doit. Ça, c'est la partie qui est un peu étrange. C'est qu'une fois qu'on a décidé de l'heure, de la date, nous, on s'assure avec la pharmacie que les médicaments vont être prêts. Il n'y a aucune forme d'improvisation. Et là, souvent, les gens disent, « Oui, mais là, il y a un 10 jours qu'on est obligé d'attendre. » Le 10 jours qu'on est obligé d'attendre, ça, c'est pour éviter ce que moi, j'ai déjà vécu, c'est-à-dire un patient qui arrive à l'hôpital et qui me dit, « Bon, là, je veux l'aide médicale à mourir. Je veux que ça se fasse à 15 heures cet après-midi. » Non, on ne veut pas de gestes impulsif.
Ouais.
Et là, ce qui est important, c'est que ce 10 jours-là est un 10 jours qui est négociable.
C'est entre le moment où on la demande, et celle où on peut la recevoir. Exactement. Ça peut être aussi court que 10 jours.
Oui, ça peut être aussi court que 10 jours. Et ça peut être
Je dis court, puis pour certaines personnes, ça peut être long.
Mais ça peut être encore plus court. Je vous donne l'exemple. J'ai déjà eu un patient qui avait des métastases au cerveau qui créaient beaucoup d'enflures. On avait peur qu'il devienne incapable de maintenir son consentement, qu'il devienne confus ou halluciné. Et on a demandé une dérogation pour que ça se fasse en 3 jours parce qu'on s'est dit, ça ne durera pas 10 jours. Et le patient, lui, pour sa dignité, il ne voulait pas finir confus et tout le kit. C'est qu'on l'a eu, notre dérogation. Une fois que ça s'est fait, on va chercher nos médicaments. Et les médicaments, ce n'est pas le docteur qui décide qu'est-ce qu'il va donner. Hein, c'est absolument... il y a une recette. Et la recette, elle est très bonne. Okay? Il n'y a pas les gens qui se disent, mon Dieu, qu'est-ce qui arrive si je me réveille après mon médicament? Ça n'arrivera pas, là. Okay? Il n'y a personne que ça va arriver. Les doses sont donc tous des médicaments qui sont utilisés couramment par les médecins à des doses et pour d'autres utilités que l'on donne vraiment pour créer le décès. Ces médicaments-là, il y en a essentiellement un pour enlever l'anxiété, un qui endort et qui va vraiment faire que la personne s'endort. Et à travers ça, les pressions baissent, le cœur va arrêter. On a un autre médicament qui paralyse la respiration. Les patients s'endorment. Et il n'y a pas de mouvements anormaux, il n'y a pas de convulsions. Ce n'est pas graphique du
tout. C'est doux, finalement.
C'est très, très doux.
Ouais.
C'est certain que la dernière respiration de quelqu'un, des fois, ça peut faire des petits bruits ou on peut avoir un peu d'obstruction, mais c'est très calme et c'est très doux. C'est juste qu'on entend ça habituellement parce que tout le monde est tellement silencieux. Tout le monde est fixé sur l'attention, mais ce que le patient...
On entend vraiment le dernier souffle.
Oh, oui. Et parce que le dernier souffle, quand les muscles se relâchent, c'est un long soupir. On l'entend vraiment. Quand les patients, même en dehors de l'aide médicale à mourir, les familles qui viennent me voir dire « Notre père, notre mère, notre frère est décédé », ils le savent, ils ont la conviction. Le souffle, ce dernier souffle-là est très particulier.
C'est comme un râle?
C'est pas nécessairement un râle, non. Ça peut être vraiment... C'est juste qu'il est beaucoup plus long, ouais. Et là, il n'y en aura pas après. Ouais. C'est particulier parce que là, toute la cage thoracique revient au repos. C'est que la dernière respiration est plus longue, c'est un soupir. Il n'y a pas nécessairement de bruit particulier, c'est juste, il faut l'avoir vécu, mais c'est plus un soupir.
Mmh. Après ce premier, comment vous êtes senti?
En fait, sur le moment, j'étais vraiment en train de combattre mon entraînement qui disait « ça se peut pas ». Il y a comme une voix dans ma tête qui disait « tu vas pas le faire ». Et c'est vraiment particulier parce que c'était pas un petit ange ou un petit démon, c'était ma main qui ne voulait pas injecter le médicament. Là, c'est comme s'il fallait que je dise à ma main « là, non, mais pousse là ta seringue, là, c'est quoi ce niaisage-là ». Et après, j'étais un peu dans un état second. J'ai ramassé mes choses et ça m'a pris plusieurs heures à réaliser. Cette soirée-là, j'étais content que ma femme soit avec moi. Et c'est quelques jours après, on dirait qu'il y a eu là une rationalisation. Là, ça allait bien. Puis après, encore quelques jours, ouf, il y a eu une deuxième vague émotive qui est arrivée quand on m'a surtout demandé pour en faire un deuxième. Mais c'est ça, il y a des vagues. Et des fois, ça revient. Hein? On se repose la question et c'est sain de se poser la question. C'est à chaque fois qu'on me pose la question, vas-tu en faire une autre? Je dis, je verrai quand je vais être rendu là.
Ouais.
Chaque cas est différent. Et pour l'instant, ça m'est arrivé de refuser sur des critères. Ben, les gens qualifient absolument
mais
pas.
Mais pas sur votre...
Mais pas encore de dire, non, je ne serais pas capable de faire celui-là. Est-ce que ça peut arriver? J'imagine que ça peut arriver.
Docteur François Marquis, merci beaucoup. Ce sont des informations et un témoignage précieux pour les auditeurs et auditrices que vous venez de faire. Merci beaucoup.
Merci.
On va changer de ton tout de suite après la pause. Je reçois l'humoriste Rachid Badouri en entrevue sans filtre.